Vivre en commun, l'émission de radio.
On va poursuivre avec l'annonce d'un événement que l'association Vivre en commun organise à la fin du mois. Alors dans le courriel d'info de l'association, d'ailleurs c'est l'occasion d'en dire deux mots, chaque mois vous pouvez vous inscrire à au courriel d'information ou newsletter, pour ceux qui ont du mal avec le français. Ça peut se faire sur le site, vous laissez votre mail et votre courriel, et chaque mois on envoie un petit message avec le sujet, le sommaire de l'émission de radio, les infos de rediffusion et puis quelques dates d'événements. Voilà, c'est un message par mois et vous pouvez vous inscrire sur le site vivreencommunge.org. Alors l'annonce de cet événement, c'est un atelier autour de Linux, de l'informatique et des logiciels libres ainsi que d'Internet. Et alors c'était annoncé dans le courriel d'info début janvier, mais finalement on a décalé pour plusieurs raisons la date, et donc ce sera le samedi 27 janvier de 13h30 à 18h, et ce sera au local de l'association Alter Ego. Ce local s'appelle L'Abri. Donc cette association et ce local, L'Abri, a des permanences d'accueil pour les familles de migrants notamment, ainsi que pour tous les habitants du canton d'Aurignac. C'est un lieu de convivialité et de rencontre, et pour enrichir ce lieu d'accueil, on a proposé d'installer des postes informatiques permettant notamment aux nouveaux arrivants de suivre à la fois des cours de français mais aussi de communiquer avec leur famille par internet. Et en plus, eh ben, on lance cette série d'ateliers informatiques. Donc un des buts, c'est d'aider au recyclage des ordinateurs par l'association notamment de systèmes d'exploitation GNU Linux. C'est ce qui peut remplacer Windows ou Mac sur les ordinateurs, hein. C'est pas une fatalité d'avoir ces systèmes, et ça permet notamment aussi de rajeunir des ordinateurs qui ramaient un petit peu en leur mettant un nouveau système dessus. Et c'est aussi ces ateliers, ces rencontres sont l'occasion d'entraide autour des logiciels libres pour apprendre à mieux s'en servir, et aussi à mieux se servir d'Internet, à mieux comprendre comment ça fonctionne, hein. C'est un outil que tout le monde utilise, enfin beaucoup de gens utilisent, mais ils comprennent de moins en moins comment ça fonctionne. Donc voilà, et ces ateliers seront tous les mois, voire tous les deux mois, ça dépend un peu des disponibilités, des besoins. On voulait aussi organiser des petites conférences autour des logiciels libres, de la vie privée à l'ère du big data, se questionner un petit peu aussi sur Google, notamment, hein, qui est le monopole d'Internet, hein, et la plupart des services d'Internet sont fournis plus ou moins par Google. C'est aussi lui qui rafle plus de la moitié des recettes publicitaires de l'Internet en entier, hein. C'est des milliards de bénéfices tous les ans. Et c'est aussi un petit contrôle autour de ça qu'effectue Google. Donc c'est aussi une manière de se questionner là-dessus et puis d'utiliser des outils alternatifs. Pour illustrer un petit peu ce que peut être cet atelier, et puis vous donner un petit peu d'informations autour de ce que c'est que les logiciels libres, puis aussi dans le cadre de cette 100e émission, je voulais vous proposer un petit retour sur une émission, la 4e de l'association. C'était encore en 2009. Et on avait en studio Raphaël, Ingrid et Olivier, et puis moi, et on avait Emmanuel au téléphone, et puis on avait aussi, c'est un des autres supports quand on fait des émissions de radio, on avait fait des petits enregistrements lors des rencontres qu'on avait fait autour des logiciels libres et de l'informatique libre. Donc voilà, on va vous passer un petit extrait de cette émission de 2009.
Vivre en commun, l'émission de radio.
Donc là, on va parler des logiciels libres et d'Internet. Donc la fête aux médias qui s'est déroulée les 21 avril au 5 mai, qui était une rencontre critique et constructive autour des médias, s'est déroulée en trois soirées projections, dont vous pouvez retrouver
des enregistrements sur la dernière émission de l'association, sur l'émission du mois d'avril. Et il y a eu une journée de sensibilisation au logiciel libre et en fonctionnement d'Internet.
Voilà, nous avons donc ici en ligne un invité.
Donc nous avons en ligne Emmanuel Lacroix, qui était co-organisateur de cette journée du libre. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer quel était l'objet de cette journée?
L'intérêt de cette journée, c'était de présenter tout ce qui est question du logiciel libre et notamment de l'environnement Linux, c'est-à-dire que les gens connaissent principalement Windows, puisqu'on, dans la plupart des cas, chez le commerçant, on leur laisse pas le choix. Ils ne savent pas qu'ils ont le choix de plusieurs environnements, donc l'intérêt, c'était de présenter Linux et d'expliquer en quoi le libre avait un intérêt par rapport au commercial, tout commercial tel que le propose Microsoft, et voilà, de montrer aussi que ça marche, parce que souvent on se dit que c'est fait pour les petits informaticiens boutonneux, et là on montre que le commun des mortels peut très facilement aborder Linux facilement. Bon, il faut, c'est vite dit, hein. Bien sûr, il y a aussi des difficultés, mais pas plus que s'adapter à Windows. Voilà l'intérêt de ça, et c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment des personnes de tous âges, quoi, qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur si ce n'est à sortir la carte de crédit à tout bout de champ.
Avec Emmanuel, on avait envie d'approfondir un petit peu sur derrière l'utilisation de ces logiciels libres. Est-ce que l'Internet, qui est une des premières utilisations de l'informatique, est-il vraiment libre?
Par rapport à cette question-là, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect logiciel, c'est-à-dire que les gens ne savent pas du tout, mais lorsqu'ils ouvrent leur Explorer, mettons Internet Explorer, et pour pouvoir arriver à destination, c'est-à-dire sur le site de leur choix, disons livreencommun.org, ils s'adressent sans le savoir à toute une technique qui est à 60 ou 70% basée sur la technologie du libre. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, la plupart des serveurs web, c'est fait avec du libre. Ne serait-ce que de pouvoir mettre un nom à peu près correct, c'est-à-dire vivreencommun.org plutôt qu'une série de chiffres, et bien ça, il y a une technique derrière, et cette technique repose à encore une fois, à plus de la moitié de ces types de serveurs sur des techniques du libre. Donc ça, oui, si on se repose sur la question du logiciel, là, on s'adresse sans le savoir à du libre. Et c'est bien pour ça qu'il faut aussi soutenir ce genre de choses, parce que si on s'adresse à du Microsoft, encore une fois, on risque de payer. Après, le deuxième aspect, c'est la communication, c'est-à-dire comment on communique. Est-ce que c'est vraiment libre? Bon, sans citer la situation de censure dans certains pays de dictateurs, c'est une vaste question.
Comment on pourrait soutenir le libre, les logiciels libres?
Déjà en l'utilisant, c'est-à-dire que demander à un commerçant de nous mettre du libre, c'est à la fois très simple et à la fois très déroutant pour les commerçants qui sont formatés, qui reçoivent 3 tonnes de publicité, voire qui reçoivent des coms à fond pour vendre absolument du Microsoft. Donc déjà, aller se renseigner, ne serait-ce qu'en tapant Linux sur Google, si on citait un moteur de recherche, on aura déjà de quoi s'orienter à utiliser du libre. Maintenant, c'est vrai que si on se retourne sur notre secteur géographique, pour l'instant, le réseau du libre et avoir des aides au niveau du libre, c'est vrai que ça reste à monter, hein, tout ça.
Je t'apprends, Ingrid, pardon.
Est-ce que d'utiliser Linux, c'est pas accessible que aux gens qui ont des bonnes notions d'informatique?
Non. Déjà parce que, en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que déjà sous Windows, la plupart des gens, ils sont déjà attirés vers du Linux. Quand on installe Firefox, Thunderbird pour le plus courant, le plus aisé, c'est déjà du libre. Il n'y a pas de différence avec Linux, c'est-à-dire qu'on va retrouver son Firefox, son Thunderbird, enfin le logiciel email et un tas d'autres, bon les noms m'échappent là, mais qu'on utilise déjà parce que les gens, comme ils veulent pas forcément payer à tout bout de champ, c'est la première motivation, hein, l'argent, même si Linux n'est pas forcément tout le temps gratuit, mais déjà ne pas avoir à débourser, c'est important, surtout par les temps qui courent. Donc dès qu'on va chercher sur internet un petit logiciel, on va tomber sans le savoir sur du logiciel libre, mais je suis sûr qu'une tonne de gens utilisent des logiciels libres parce que voilà, ils l'ont trouvé sur internet sans le savoir. Ben, le passage à Linux, une fois qu'on utilise ces logiciels sous son Windows, il est assez facile. Ou évidemment, celui qui se pose pas de questions, il peut rester sous Windows.
Donc c'est quand même une démarche assez militante, hein, aussi. C'est pas que l'argent quand même. Je sais qu'il y a militantisme derrière.
Ouais, je sais pas s'il y a du militantisme. J'ai vu récemment, je crois qu'il faut sortir de cette idée-là. Vous savez que la plupart des lenders en Allemagne sont passés entièrement sous Linux, que la gendarmerie nationale française va aussi donner l'exemple, puisqu'ils passent entièrement sous Linux. La Poste va s'y mettre. Bien que tout ça, effectivement, la Poste c'est bientôt privé, et eux, ils sont pas du tout militants. Enfin, j'espère qu'ils seront pas trop privés, mais pour l'instant, ils sont pas dans le militantisme. Ce qui les motive, c'est l'argent. Donc, et petit à petit, tous les services publics vont y passer. L'éducation nationale, bon, ils sont encore un peu frileux sur le sujet, mais pour le coup, le militantisme de certains profs va pousser l'éducation nationale, mais c'est ça la première motivation. Donc si ces grosses boîtes passent à du Linux ou y tendent, ce que je veux dire, c'est qu'ils voient l'intérêt de leur poche. Et je crois que c'est aussi un exemple qui démontre que il y a une fiabilité derrière Linux, parce que c'est aussi un reproche que font les Windowsiens, mais il y a une fiabilité suffisamment bonne de Linux pour dire on va passer des systèmes complexes sous du libre entier. Voilà. Donc du militantisme, oui, il en faut toujours, un petit peu, mais de la part des citoyens, parce que la tendance de la loi, sous les pressions de lobbies diverses, ça serait d'interdire purement et simplement les logiciels libres à cause des méchants pirates. Bon, mais ça, c'est du bidon. Enfin, le militantisme sert surtout à se battre contre ça et pour dire au grand public, ce n'est pas dangereux, ça va pas bousiller votre ordinateur. Et finalement, c'est assez simple, même si, sans doute, il faut être accompagné pour celui qui débarque là-dedans. Hein, ça, c'est sûr.
Merci, Emmanuel, pour cette intervention, pour vous avoir accordé de ton temps.
En fait, juste la conclusion, c'est un petit peu ce que je te disais, Angelo. C'est que après, au-delà de ça, ce qui me gêne toujours dans le débat, enfin, il faut se battre pour Linux. Je suis un fervent combattant pour ça, si j'utilise une image guerrière. Mais après, c'est vrai que la question qui est toujours évacuée derrière ça, c'est que au-delà de ça, il y a l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un débat de riches, c'est-à-dire que Windows, Linux, Mac, etc. Voilà, on se dit c'est nous les meilleurs logiciels. Après, il faut pas oublier que derrière tout ça, on évacue toujours l'aspect matériel, c'est-à-dire que quand on met un Linux sur son ordinateur, on a fait bosser derrière des gens qui sont payés à coups de lance-pierre en Chine, à Taïwan ou au Vietnam. Même si on s'achète un super ordinateur américain, évidemment tous les composants ils sont fabriqués par des gens dans les conditions dans lesquelles vous imaginez. Et ça, on l'évacue un peu trop à mon goût. Ça reste encore à mettre sur la table, même si c'est un peu hors sujet. Hein. Mais on a toujours du Linux fabriqué par des enfants. Voilà, donc le problème fondamental, après, évidemment, c'est une question de société, mais ça n'évacue pas, faut pas évacuer cette question-là du logiciel libre, à mon avis. Voilà ma conclusion.
C'est une très très bonne conclusion. C'est un débat qui mériterait beaucoup plus qu'un quart d'heure, évidemment, donc j'espère qu'on aura le temps d'en parler plus longtemps une autre fois.
Oui.
En tout cas, merci.
Outre la fabrication, on pourrait aussi parler de, enfin, de la du retraitement de ces machines une fois,
oui,
une
ouais.
fois,
ouais.
une fois utilisé, quoi. Qui revient parfois dans les mêmes pays où il était fabriqué.
Tout à fait.
Voilà. Merci donc, Emmanuel. Donc, une prochaine fois, on espère tous.
Oui.
Et nous allons donc continuer en passant des extraits des débats qui ont eu lieu, enfin pas des débats, des interventions qui ont eu lieu lors de la fête du libre. Merci Emmanuel.
À bientôt Emmanuel, merci.
Au revoir.
Voilà, on va pouvoir savoir pour ceux qui n'ont pas compris la conversation précédente, qu'est-ce qu'un logiciel libre et qu'est-ce qu'un logiciel propriétaire ?
La démarche, c'est de libérer les gens des formats propriétaires, mais pas de les coincer dans un format libre. Donc, en voulant libérer les gens du format propriétaire, il faut leur donner la possibilité de travailler avec des formats propriétaires pour pouvoir à un moment garder leur actif. Par exemple, moi qui suis artisan, qui fabrique des ordinateurs et qui fait des factures à mes clients, si je commence mon activité avec un Windows, ben, parce qu'à l'époque je connaissais pas autre chose et j'ai commencé à fabriquer mes documents avec ça, si je décide de passer au logiciel libre et que je dois me repalucher toutes les factures ou tout mon existant pour pouvoir passer au logiciel libre, c'est pas viable. Donc la démarche a été de mettre à disposition des formats de fichiers ouverts, mais aussi d'ouvrir les logiciels libres au format de fichiers propriétaires, de manière à pouvoir faire une interopérabilité entre les systèmes libres et non libres. Un logiciel propriétaire, c'est pas l'idée qui est protégée, c'est comment on le fait. C'est-à-dire que comment un logiciel propriétaire va encoder un fichier JPG, par exemple, une image JPG. Bon, ben, il va utiliser une méthode de compression lambda. Il va utiliser ce qu'on appelle une encapsulation. Alors, sans parler de termes trop techniques, c'est une boîte. C'est-à-dire qu'il y a une boîte dans laquelle il va y avoir les données qui constituent l'image et il va y avoir la méthode de compression. Et ensuite, ça s'appelle toto.jpg. Mais le format JPG, c'est une description de comment on fait pour avoir une image compressée. Donc ça, c'est pas protégé. C'est la manière dont eux vont faire la compression JPG qui est protégée. Donc tu peux très bien, toi, dire ben, je vais fabriquer un petit logiciel qui va faire de la compression JPG. Ils ont peut-être utilisé des astuces que tu vas pas trouver tout de suite, mais à plusieurs, vous allez pouvoir établir un algorithme qui va donner à peu près le même rendu, voire le même, voire même mieux, pourquoi pas ? Parce que ben, vous serez combien sur la planète à vouloir sortir un logiciel, le même logiciel et à travailler tous dessus pour être au must de la qualité. C'est le cas à l'heure actuelle du format vidéo MKV, qui est en fait un format vidéo libre et qui permet d'encoder des vidéos, de mettre des menus, des sous-titres, de gérer plusieurs langues sur un flux vidéo. Le gros problème du logiciel libre pour prendre sa place dans le marché, parce que le problème il est là, c'est la communication. Toi demain tu fabriques un logiciel qui fait, le MKV. Tu vas sortir ton porte-monnaie, tu vas appeler une agence de publicité pour dire ça y est, il y a machin qui a fait le MKV. Bon, ben, Bill Gates, lui, il appelle ses publicitaires parce qu'il a les siens, et puis il va faire de la pub et il va diffuser sur tous les médias de la planète. Le logiciel libre, il a pas ça. Le seul truc qu'il a, le logiciel libre, c'est le bouche-à-oreille. La démarche de l'utilisation du logiciel libre, il faut aller vers l'information. Parce que l'information ne viendra pas à vous. On n'est pas dans une structure commerciale où on est consommateur, on est dans une structure où on est acteur. Si vous venez chez des gens comme David ou comme moi qui militons pour le logiciel libre, on va vous proposer du logiciel libre. Mais c'est rare. Ça tend à se démocratiser petit à petit, mais c'est quand même rare. Donc il faut aller à l'information. Vous voulez vous paramétrer un ordinateur sous Linux, il va falloir faire un effort de compréhension et d'adaptation pour arriver à fonctionner. Parce que c'est un système qui permet une adaptation parfaite aux besoins que vous avez, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut à un moment donné quand même rentrer un peu dans le sujet.
Du ministère des fleurs, dites-moi,
ne quittez pas le bureau du bonheur.
ce système de fermeture propriétaire, ça va à certaines doses. C'est-à-dire à une petite dose. À partir du moment où vous voulez développer ou créer ne serait-ce de la musique, de l'image, de la vidéo, à un moment bien défini, vous allez vous retrouver bloqué. Comme il le disait très bien, imaginons Pinnacle, une boîte qui fait des logiciels de vidéo, se casse la gueule, c'est foutu. Toutes vos sauvegardes qui ont été utilisées, c'est mort. Inutilisable. Avec Linux et avec des systèmes qu'on appelle libres, c'est là qu'on voit l'ouverture. J'ai la possibilité d'intégrer dans ces logiciels-là mes propres fonctions personnelles. Si j'ai envie de mettre une fonction qui me découpe l'image, je peux le faire d'une façon ultra simplifiée pour certaines personnes, mais en même temps ça laisse quand même une ouverture d'accès, quoi. Et c'est pour tout pareil, logiciel de vidéo, logiciel graphique, logiciel audio. À savoir que le travail artistique ne peut pas être confronté à un moment à un blocage. Parce que sinon, si on est confronté à ce genre de blocage, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de travaux effectués. S'il n'y a plus de travaux effectués, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus rien. Nada. Chi.
Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur.
Dans mon cas, moi, je me suis monté il y a très peu de temps, 1er janvier 2009, en auto-entrepreneur. Moi, mon but, en fait, quand en ayant monté cette entreprise, c'était de quoi? De proposer aux gens un autre mode de consommation numérique. Je vais pas proposer à mon client une application de dessin, de traitement d'image, à 400€ l'application, alors que je peux avoir la même application avec les résultats équivalents, libres. Ou à des frais moindres. Actuellement, je suis en train de travailler, essayer de trouver quelques auto-entrepreneurs pour essayer de monter un type d'entreprise qui aurait une sorte de charte éthique envers leurs clients en disant, voilà, si tu veux un système libre, moi je suis libre pour te donner des conseils.
Les parts de marché à l'heure actuelle de Microsoft ont dégringolé. Ils sont passés de 96 à 90. Mais c'est énorme. C'est Apple qui a pris, qui est monté de 2 à 3,5 et Linux qui est passé de 0,0 quelque chose à 1. Ce qui est énorme. C'est une victoire phénoménale. Mais bon, c'est un cheveu dans un bol de soupe. Hein. Mais bon, c'est un pas en avant énorme. Et puis qui va aller de plus en plus. Parce que d'ici 2012, il y a l'éducation nationale qui va passer entièrement sous Linux. Et ça, c'est le fer de lance. C'est tout petit que ça commence. Si un jour, je peux... pas imposer, mais proposer à des gens qui ont des enfants un Linux, c'est une liberté que je donne à un gamin de pouvoir acquérir une compétence sans se retrouver attaché à une firme.
Voilà, voilà, c'était donc Guillaume Huet, c'est ça?
Oui.
Et David Lumeau. Alors Guillaume Huet dirige Pi09, qui est une boîte de prestations informatiques à Sainte-Croix-Volvestre. David Lumeau, lui, à CKD Develop à Saint-Lizier. Donc c'était deux intervenants et coordinateurs et co-organisateurs, pardon, de la fête du libre qui a eu lieu à Mazères-sur-Salla le mois dernier. Lors de la fête aux médias. Avec Vivre en Comminges et Autres Sens et Radio Coteau, enfin tout un tas d'organisateurs que vous avez sans doute pu voir. Et voilà, oui, qu'est-ce que...
Pour rester dans le concret, on m'entend, ouais.
On t'entend.
Je voulais donner quelques exemples de logiciels libres, ça n'a pas été dit, des logiciels comme OpenOffice, Firefox, Linux, Ubuntu sont des logiciels libres. Et le site internet de l'association de Vivre en Commun est géré aussi par un logiciel libre qui s'appelle SPIP, quoi, qui permet la rédaction d'articles sur le site internet.
En tout cas,
celui d'autres sens également. Et, voilà.
voilà. Laurent nous fait la précision, quoi.
Ouais, en tout cas, ce sont toutes les questions soulevées par ces intervenants, y compris Emmanuel, sont toutes des questions qui méritent d'être posées et que le grand public ne connaît pas forcément.
En tout cas, quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que toute la mécanique du fonctionnement d'Internet au niveau mondial est gérée en partie par tout ce qu'on appelle les logiciels libres.
Oui, oui, oui.
Donc ça, c'est intéressant à savoir quand même, parce que bon, ça marche.
Donc ces logiciels ont leur une des caractéristiques des logiciels libres, c'est d'avoir leur code source, leur programme à l'intérieur qui est accessible, qui est transparent, quoi. Ce qui n'est pas le cas du fonctionnement d'Internet en lui-même, où on ne sait pas comment les choses, on peut dire qu'il n'est pas transparent, quoi. C'est quelque chose qui serait intéressante de réaborder, peut-être avec Emmanuel pour une prochaine émission.
Puisque, comme le disait Emmanuel, les gens utilisent l'informatique et l'Internet comme si c'était quelque chose finalement presque tombé du ciel, qu'il n'y avait pas d'implication. On a l'habitude de militer pour tout un tas de choses, mais militer pour l'informatique, une informatique éthique en tout cas, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de comment passe même ne serait-ce que l'électricité, ça mérite d'être posé tout ça. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà.
Aussi dans une idée de voir comment circule l'information, de quelle manière et comment elle peut être contrôlée aussi, quoi, s'il n'y a pas de transparence.
Oui, mais ça, c'est un débat qui est remis souvent sur le tapis, celui-là. Par contre, celui-là, on l'entend, hein, entre Adopi, machin chose, tout ça, même à la santé.
Non, stop, Raph, de là, c'est pas Adopi, tout ça, c'est foutu, sinon on y passe deux jours, là.
On en parlera la prochaine
fois. Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges sur les ondes de Radio Coteau 104.5 ou 97.7 FM
et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois
à 18h.
Actu local, interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Et donc voilà pour cet extrait d'émission de 2009 avec notamment Olivier, Raph et Ingrid, avec moi c'était les fondateurs de cette émission de radio. Et tout ça pour vous annoncer donc cet atelier Linux autour des logiciels libres de l'informatique et d'Internet qui aura lieu le samedi 27 janvier de 13h30 à 18h à Aurignac, au local de l'association Alter Ego qui s'appelle L'Abri. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil aussi. Le samedi, c'est le jour de marché à Aurignac. Donc si vous voulez aller au marché de producteurs d'Aurignac, que des producteurs locaux, et venir après à l'atelier Linux, ça peut être l'occasion de coupler les deux. Voilà, et un petit peu dans le... Je voulais aussi faire un... J'ai lu un livre il y a pas longtemps qui s'appelle Dans la Google du loup. Alors Manu, il nous parlait de Google vaguement tout à l'heure dans l'émission, c'était en 2009. Et 9 ans après, Google a beaucoup changé, et ses ambitions, sûrement que non, mais... Elles sont toujours plus importantes, et j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle Dans la Google du loup de Christine Cardellan, je sais pas, aux éditions Plon, que vous pouvez trouver à la médiathèque départementale de Haute-Garonne, au Musibus, on va le trouver, quoi, enfin, dès que je l'aurai rendu. D'ailleurs, j'ai loupé le jour, c'est le premier mardi du mois à Aurignac, vous avez le bus où vous pouvez emprunter pas mal de livres, et c'est assez intéressant, quoi. Il nous parle donc de Google et de toutes ses implications. Je peux vous lire un peu le sommaire. Il nous parle de la fin de la vie privée, où Google vous connaît mieux que vous-même, et cela peut faire mal, des dangers du transhumanisme. Google et ses dirigeants sont très impliqués dans le transhumanisme, hein, dans l'homme augmenté, l'avènement de l'eugénisme, quand rendre le monde meilleur rejoint le meilleur des mondes. C'est-à-dire, Google a en 10 ans, ils ont racheté 200 sociétés à travers le monde, dans des domaines notamment de l'informatique et aussi de la génétique, hein. Ils sont partie prenante dans des sociétés, dans des laboratoires qui vous font des tests, notamment pour savoir des tests plus ou moins de paternité, ou pour savoir combien de Néandertal vous avez, ou des choses comme ça, quoi. Et avec ça, comme ce qu'ils font quand vous utilisez leur service, service et ils stockent des données qui leur servent pour de la recherche et bon c'est à terme hein, c'est plus ou moins hein, parce qu'ils ont ils ont aucune éthique hein, dans cette entreprise. Et ben c'est la sélection d'embryons et des hommes augmentés au niveau génétique hein, qui à long terme c'est leur ambition hein, le transhumanisme c'est aussi ça hein, c'est de perdurer à travers le temps et à travers à la suite de la mort du corps éventuellement une fois qu'on peut plus en faire grand chose et ben aller dans un autre corps et c'est ça paraît de la science-fiction mais les gens de Google sont vraiment dans cet esprit là quoi et c'est intéressant de bien le voir et un autre chapitre c'est l'éradication d'un style de vie une entreprise totalitaire aussi comment Google tue ses concurrents étrangle des secteurs entiers et le dernier c'est le coup d'état des robots et si l'intelligence artificielle décrète un jour que l'homme est inutile. Voilà, bon, c'est sûrement une thématique, on en a discuté il y a pas longtemps, qu'on réabordera dans une prochaine émission qui s'appelle enfin autour du transhumanisme peut-être. C'est une thématique qu'on voudrait aborder. Tu voulais dire quelque chose, Fanny ?
Ouais, je voulais juste rajouter parce que je l'ai lu aussi et en fait la forme d'écriture est assez agréable à lire parce que il couple en fait le reporter sur Google avec un récit de science-fiction en fait pour chaque chapitre.
Enfin, d'anticipation.
D'anticipation, voilà. Et du coup, c'est assez plaisant à lire parce qu'il y a toujours il y a cette histoire qui continue et après en parallèle à la chaque chapitre en fait il y a l'histoire et après il y a le qu'est-ce qui se passe réellement dans la réalité maintenant donc ça fait une espèce de parallèle entre cette histoire qui nous tient aussi comme une intrigue et donc ça se lit très facilement.
Avec des personnages qui sont de notre génération, qui vivent à notre temps, et avec les enfants qui sont nés juste maintenant, c'est et ça illustre bien les ambitions de ce type d'entreprise dont on parle beaucoup. Hein, c'est un sujet qui faut aborder parce que c'est quand même l'hégémonie d'Internet. Hein. Que ce soit avec Google, YouTube
et puis c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout parce que on a tous, enfin, plus ou moins on est très nombreux à avoir des comptes Gmail, on est très nombreux à utiliser Google sans savoir en fait toutes les données, on sait qu'on nous prend des données, on a une certaine conscience de se dire oui c'est vrai que bon maintenant voilà j'ai pas envie de j'ai rien à cacher mais finalement en fait là on nous décrit pourquoi c'est grave en fait d'en arriver à là et par en fait on est consentant, on donne de manière consentante en fait toute notre vie privée et il y a une bonne réflexion je trouve là-dessus qu'on n'a pas du tout enfin, dont on parle très peu finalement dans notre société où on partage tout sur les réseaux sociaux et tout et ça, voilà, ça permet de nous rendre compte et de dire bon en fait ce qui se passe là c'est ça exactement en ce moment et c'est vrai que c'est assez choquant de le voir aussi près et aussi clairement. Moi, c'est ce qui s'est passé quand je l'ai lu.
Et aussi parce que même si on n'utilise pas ces services-là, d'autres personnes de nos entourages les utilisent de manière détournée. En fait, on est aussi, même si on veut s'en défaire, d'autres personnes utilisent ces services-là et nous mettent un peu dedans aussi, d'une certaine manière. Donc voilà, ce sera des thématiques qu'on réabordera et on vous donne donc rendez-vous autour de Linux dans un premier temps et de la réappropriation de nos outils informatiques le samedi 27 janvier de 13h de 13h30 à 18h au local de l'association Alter Ego qui s'appelle l'Abri, c'est rue Saint-Michel pas très loin de la poste en remontant vers la place de la mairie et donc en partenariat avec notre association vivreencommunge.org. Vous retrouverez toutes les infos sur vivreencommunge.org.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission des radios.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges. Sur les ondes de Radio Coteau 104.5
ou 97.7
FM
et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois
à 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.